de Hex.
Qui veut
la
dire
la sorcière.
Pour quelle raison?
Et c'est pareil, c'est toujours... Bon, il y a des raisons rationnelles. Et puis,
dans l'histoire de la danse.
Dans l'histoire de la danse. Et puis il y a des raisons, peut-être cette image de la femme un peu dont on n'arrive pas à cerner la limite d'une femme peut-être libre.
Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes. Nous sommes jeudi, vous êtes sur France Culture, à midi ce sera littérature, elle sera étrangère pour Tout arrive avec Arnaud Laporte. Il reçoit les écrivains Marc Z, Danilevski et Joseph O'Connor.
Mercredi prochain, ici même au Café Coste d'Étienne Marcel, nous recevrons Bertrand Burgala, Les Shades pour la séquence live et la chronique hors champ littéraire de Thomas Claire.
Minuit 10 demain, ce sera art contemporain avec les plasticiens Fabien Giraud et Raphaël Siboni, c'est la jeune génération. Du live avec le groupe dub rock Zenzile, sans oublier la chronique design de Catherine Gell.
Minuit 10 aujourd'hui, c'était
Aïssatou Endoy, Jean-Marc Lalanne,
Laurent Goumard, Mathilde Monnier, Mathieu Conquet, So Cold, à la réalisation Vincent Abouchard, à la technique Bernard Le Gec, Hervé Dubreuil et Fabienne Belot.
Site internet oui, franceculture.com.
C'est exactement ça.
Merci.
Bravo, bravo. Bon, à tous.
Les Nuits de France Culture, Philippe Garbi, Geneviève Hutin, Marc Floriot, Odile Ponce, Midi à Portis Guérin, avec vous jusqu'à 6h du matin.
Pour ouvrir le programme, une archive radiophonique. Anniversaire Marcel Proust en 1963, car c'était le cinquantenaire de la parution de « À la recherche du temps perdu ». C'est une émission de Robert Valette. Marguerite Duras, Francis Ponge, Gérard Genette, Philippe Solers nous parlent de Marcel Proust. Cet anniversaire sera suivi d'un entretien « Couleur de ce temps » Marc Chagall par Georges Charbonnier. À 2h25, à voix nue, à 3h dans la fabrique de l'histoire, documentaire Les femmes politiques en France depuis 1945 par Séverine Liattard, Liberté, égalité, parité. À 4h, la suite dans les idées par Sylvain Bourmeau. À 5h, sur les docks, Les insulaires, deux îles du Ponant, Wedik et Watt par Irène Omelianenko, réalisation François Test. À 6h, La famille dans tous ses états par Caroline Eliachev, Françoise Dolto et sa mère, une émission de 2005 réalisée par Didier Lagarde. Bonne nuit sur France Culture.
Entre 1h et 6h du matin, Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Grandes archives radiophoniques. L'anniversaire Marcel Proust en 1963 par Robert Valette. Un anniversaire et 5 participants, Marguerite Duras, Gérard Genette, Francis Ponge, Nathalie Sarraud, Philippe Solers. Avec Marguerite Duras, la continuité du roman proustien. Avec Gérard Genette, la réponse de Marcel Proust à la difficulté d'écrire. Avec Francis Ponge, les passages de l'œuvre qui l'ont bouleversé. Avec Nathalie Sarraud, le style de Marcel Proust. Et pour finir, Philippe Solers, l'œuvre indéfinie, l'œuvre ouverte de Marcel Proust.
Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Svan. La RTF présente Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier, avec la participation de Roland Barthes, Michel Butor, Louis-René Desforêts, Marguerite Duras, Gérard Genette, Francis Ponge, Nathalie Sarraute, Philippe Solers. Quatrième émission, La leçon de Proust, selon Marguerite Duras.
Le lecteur de Proust a le sentiment d'entrer de plein pied dans le royaume de l'esprit. Dès les premières pages du temps perdu, une sorte d'extase, une angoisse extasiée, lui est à la fois donnée et promise. Et c'est avec confiance qu'on se laisse conduire à cette longue recherche dans laquelle se déploie continuellement l'ample douceur de la patience et de l'attention. L'œuvre de Proust, l'accomplissement de son acte d'écrivain, en fait un acte peut-être parfait. Pour son acte même, pour son besoin d'agir à sa propre manière, quelle leçon l'écrivain y trouve-t-il? Pour l'écrivain, en somme, quelle est la leçon de Proust? Marguerite Duras.
L'enseignement majeur, principal, c'est l'existence même de Proust. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé, totale, et dans l'espace et dans le temps. C'est tout, enfin, pour ma part, et c'est l'essentiel. Supposons qu'un homme n'ait lu qu'une seule œuvre, celle de Proust, on pourrait imaginer qu'il pourrait lui-même en passer à l'écriture à partir de cette œuvre. Il serait, pour ainsi dire, contaminé, illuminé, mais par lui-même, par sa propre existence, et par la puissance, la lucidité de son esprit tout à coup. Il s'écrirait que de choses autour de moi, en moi, que je n'avais pas aperçues. C'est en cela que Proust nous est familier, et qui s'adresse surtout à tous les écrivains. Proust parle des artistes qui ne voient pas leur vie parce qu'ils ne cherchent pas à l'éclaircir. Et ainsi, dit-il, leur passé est encombré d'innombrables clichés qui restent inutiles parce que l'intelligence ne les a pas développés. Rien n'est à proprement parler extraordinaire dans l'univers proustien. Ni Swann, ni Albertine, ni même le stupéfiant Palamède de Charlus. L'émerveillement est ailleurs. Il réside dans la résultante symphonique du tout, grâce au mouvement qui les anime. En somme, on peut dire que l'enseignement de Proust, c'est l'enseignement de la transparence des formes, entre lesquelles on peut toujours aller et venir, et leur indéchiffrable complexité. Et le message essentiel, enfin le message, l'enseignement essentiel, n'est-il pas celui d'un pessimisme essentiel ? Mais en marche.
Sur le fonctionnement de l'esprit, qu'est-ce que Proust vous a appris? Dans ce domaine, quel progrès vous a-t-il fait faire?
À moi, personnellement, il m'a appris à lire. Je l'ai lu tard, et après que j'ai commencé à écrire dans ma vie. Mais m'ayant appris à lire, il m'a forcément aussi appris à écrire, c'est-à-dire à éviter d'écrire comme lui ne le faisait pas. C'est à cause de lui que j'ai relu J.D. Peggy, par exemple, d'un tout autre œil que la première fois. Pas bienveillant du tout. Il m'a appris l'horreur des rhéteurs, et que le mensonge en littérature existe, et qu'il est toujours didactique. Il m'a appris la gravitation de l'esprit autour d'un axe unique, qui est la conscience de l'auteur. Et qu'à cette seule condition, le monde créé tourne. Que sans ça, il ne tourne pas. Que si l'écrivain juxtapose à sa propre conscience une fausse conscience apprise ou dictée, son entreprise non seulement manque d'harmonie, mais elle rend compte de presque rien. L'erreur personnelle, au fond, c'est cela qui m'a surtout appris. L'erreur majestueuse, magistrale, mais d'un seul. Il m'a appris la fin, on peut tout dire, tout. Il m'a appris la fin d'une certaine objectivité. La subjectivité et l'objectivité à la fois. L'objectivité à tout prix, qui est une ânerie, il me l'a apprise aussi. L'utopie, qui donne la mesure de la misère d'un auteur. Qu'est-ce qu'il m'a encore appris? Que lorsque l'expression d'un sentiment donne lieu à jugement, c'est que l'expression qui en est donnée y prête le flanc. Que l'outrecuidance, l'impudeur dans l'expression d'une passion, n'existe pour autant que ce sentiment veut paraître choqué, qu'il fait montre de son audace. Lorsqu'un sentiment est grand, il ne porte pas son spectateur à le juger convenant, convenable ou non. L'amour de Palamède de Charlus pour le petit Morel est un grand sentiment. Il est ridicule, mais il n'est pas bas. Il m'a appris que la magistrale impudeur de M. de Charlus n'est pas de détail. Elle ne porte pas sur l'une quelconque de ses passions, mais qu'elle le définit tout entier. Et cet admirable scandale vivant est la vérité. Il m'a appris l'avènement de la littérature sans classe, la calamité d'être juif, la misère d'être marquis.
La démarche de Proust, à quoi est-elle reconnaissable ? Qu'a-t-elle d'inimitable et d'imitable à la fois ?
Je m'excuse, mais il me semble que la question est sans objet. La démarche de Proust est reconnaissable entre toutes. C'est cela l'important. Il ne me semble pas qu'elle soit imitable. Elle l'a été, en tout cas, infiniment moins que celle de Joyce. Pourquoi ? Je ne sais pas au juste, parce que sans doute la démarche de Proust se produit dans un univers essentiellement particulier, celui de l'auteur. Mais, et c'est cela qui est important, en lieu et place de n'importe quel autre. D'ailleurs, Proust l'a dit dans Sodome et Gomorre.
Deux ou trois fois, pendant un instant, j'eus l'idée que le monde où était cette chambre et ces bibliothèques, et dans lequel Albertine était si peu de choses, était peut-être un monde intellectuel, qui était la seule réalité, et mon chagrin quelque chose comme celui que donne la lecture d'un roman, et dont un fou seul pourrait faire ce chagrin durable et permanent, et se prolongeant dans sa vie. Qu'il suffirait peut-être d'un petit moment de ma volonté pour atteindre ce monde réel, y entrer en dépassant ma douleur comme un cerceau de papier qu'on crève, et ne plus me soucier davantage de ce qu'avait fait Albertine, que nous ne nous soucions des actions de l'héroïne imaginaire d'un roman après que nous en avons fini la lecture.
L'effort de Proust est de montrer ce que lui personnellement a connu. Mais par un glissement, on vient de le lire, un tout petit glissement suffirait pour que ce qui lui est arrivé n'ait pas eu lieu ou soit arrivé à quelqu'un d'autre que lui. L'effort de Joyce est un effort de réfutation absolue des valeurs qui l'ont précédé. Il crée une sémantique nouvelle de la sensibilité de l'écrivain devant le monde. Rien de pareil chez Proust. Proust n'a pas voulu créer ni transformer le roman moderne. De là, sans doute, vient ce sentiment, cette impression profonde d'un futurisme constant dans son œuvre, mais un futurisme qui vous concerne. On a toujours l'impression qu'on pourrait continuer, compléter le récit proustien par le sien propre. Je veux dire que ces romans sont ouverts, les portes sont ouvertes dans ces romans. On peut y entrer. C'est cela que j'entends par futurisme. Le futur, c'est le lecteur actuel de Proust, celui qui est en train de le découvrir. Borges disait que Shakespeare n'existait pas, que Shakespeare était le lecteur de Hamlet dans le temps de la lecture, au moment où il lisait Hamlet. Shakespeare, c'est moi quand je lis Hamlet. Eh bien, je trouve que cette boutade superbe s'applique admirablement à Proust. Proust, c'est moi lorsque je lis À l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'est en cela qu'on pourrait dire que quand on lit Proust, on l'écrit. On a le sentiment de l'écriture. On participe, en somme, et au monde de Proust et à sa mise en œuvre. On rentre dans l'univers par les portes laissées ouvertes par lui.
La qualité de Proust, en quoi la faites-vous consister, Marguerite Duras ?
La qualité première et dernière de Proust, je la fais consister dans la vocation totale, radicale, de l'écrivain à la littérature. Sans doute, autrefois, la patience de Bergotte devant la recherche d'un seul mot m'indignait un peu, me repoussait un peu. Je trouvais que la vie de Bergotte manquait d'air. Enfin, maintenant, je n'ai plus du tout ce sentiment en lisant Proust. Nous savons que l'aventure humaine, aux yeux d'un seul homme, depuis Proust, peut n'avoir de réalité que littéraire. Ce qui était écrit seul était réel pour Proust. Il l'a dit. Son œuvre ne résulte pas d'une entreprise comme chez Joyce, mais d'une sorte de disposition phénoménale de son esprit à faire passer le monde par lui-même, pour le voir et le donner à voir aux autres. À bout de force, à la fin de sa vie si courte, il paraît, il l'a écrit à Gaston Gallimard, qu'il ne faisait plus que ça, relire son œuvre, comme d'autres relisent une correspondance. Cette œuvre, dans une coïncidence sans doute unique dans l'histoire de la littérature, était sa vie. Mais vraiment, on peut dire qu'une fois, un écrivain a retrouvé le temps perdu.
Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Swann. La RTF vous a présenté Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier. Quatrième émission, la leçon de Proust, selon Marguerite Duras. Les textes de Marcel Proust étaient lus par Pascal Mazzotti. À 50 ans, paraissait du côté de chez Swann. La RTF présente Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier, avec la participation de Roland Barthes, Michel Butor, Louis-René Desforêts, Marguerite Duras, Gérard Genette, Francis Ponge, Nathalie Sarraute, Philippe Solers.
Cinquième émission, la leçon de Proust selon Gérard Genette.
Le lecteur de Proust a le sentiment d'entrer de plein pied dans le royaume de l'esprit. Dès les premières pages du Temps perdu, une sorte d'extase, une angoisse extasiée, lui est à la fois donnée et promise. Et c'est avec confiance qu'on se laisse conduire à cette longue recherche dans laquelle se déploie continuellement l'ample douceur de la patience et de l'attention. L'œuvre de Proust, l'accomplissement de son acte d'écrivain, en fait un acte peut-être parfait. Pour son acte même, pour son besoin d'agir à sa propre manière, quelle leçon l'écrivain y trouve-t-il ? Pour l'écrivain, en somme, quelle est la leçon de Proust ? Gérard Genette.
Il me semble que l'œuvre de Proust constitue une réponse, et une réponse exemplaire, à la question de la difficulté d'écrire, ou si vous voulez, la question « comment peut-on écrire ?» et plus spécialement la question qui était celle de Valéry, si vous voulez, « comment peut-on écrire une chose telle qu'un roman ?» Il y a chez Proust une particularité qui est bien connue, mais qui est pleine de conséquences, c'est qu'il n'a jamais écrit et qu'il n'a jamais pu écrire autre chose que La recherche du temps perdu. Il a consacré toute sa vie à une seule œuvre. Pour comprendre le sens de ce phénomène littéraire, il faut peut-être reprendre les grandes étapes de l'élaboration de La recherche du temps perdu. En 1896, c'est-à-dire à 25 ans, Proust venait de publier Les plaisirs et les jours, qui était une série de chroniques mondaines et poétiques. Pendant 3 ans, jusqu'en 1899, il écrit un roman autobiographique, Jean Santeuil. qui contient déjà une grande part de ce qui sera la matière de la recherche du temps perdu. Mais en 1899, quelque chose l'arrête dans la rédaction de ce roman, quelque chose l'empêche de l'achever, et il doit abandonner, apparemment sans esprit de retour. Et pendant 7 ans, il va se détourner de toute littérature romanesque et se consacrer à une œuvre critique et esthétique, la traduction de Ruskin en particulier, et divers travaux de critique d'art. En 1906, qui est l'année de la mort de sa mère, et cet événement n'est peut-être pas sans rapport avec ce retour, il revient à son sujet sous la forme de ses esquisses diverses, dont certaines ont été publiées depuis sous le titre de Contre Sainte-Beuve. Ici, nous trouvons d'un seul coup tous les thèmes essentiels de la recherche du temps perdu, et en particulier l'expérience spirituelle fondamentale de la réminiscence, le mystère de la mémoire involontaire, concentré tout entière dans les 7 pages qui servent de préface au Contre Sainte-Beuve, depuis l'expérience de la Madeleine jusqu'à celle des pavés de la cour de Guermantes, c'est-à-dire depuis les premières jusqu'aux dernières pages de la future recherche du temps perdu. C'est ici la recherche dans son mouvement essentiel, sous forme en quelque sorte embryonnaire. Et ce sont ces 7 pages qui vont progressivement s'étendre et se gonfler jusqu'à l'état que nous connaissons. En 1911, lorsque Proust commence de chercher un éditeur pour le côté de chez Swann, son œuvre est dans son esprit totalement achevée. Elle doit comprendre 3 parties disposées comme les volets d'un triptyque, le côté de chez Swann, le côté de Guermantes, le temps retrouvé. Et il est probable que, sans la guerre, Proust l'aurait publié sous cette forme. C'est la guerre de 14 qui, en imposant un délai purement matériel à cette publication, va imposer à son œuvre un nouveau développement interne, un nouveau gonflement. Entre Swann et Guermantes viennent s'intercaler les jeunes filles en fleurs. Entre Guermantes et le temps retrouvé, nouveau retardement, nouvelle prolifération, Sodome et Gomorre, la prisonnière, la fugitive. En 1922, à la mort de Proust, les 7 pages de 1908 sont devenues 3000. Encore une fois, non pas par extension, mais par gonflement, par développement interne. De sorte qu'on est tenté de se poser deux questions absurdes, mais qui s'imposent. La première, que serait devenue la recherche du temps perdu si Proust n'était pas mort à 51 ans? Et la seconde, qu'aurait fait Proust, qu'aurait-il écrit, s'il avait pu faire paraître en 1914 les 3 parties de ce qu'était alors la recherche du temps perdu? Quoi qu'il en soit, Proust reste pour nous l'auteur d'une seule œuvre, d'une œuvre unique, à laquelle se rattache étroitement tout ce qu'il a pu écrire d'autre, et qui ne constitue rien d'autre que la fabrique ou le chantier de la recherche du temps perdu. Ce phénomène d'un auteur entièrement consacré à une œuvre unique est lui-même très rare dans l'histoire de la littérature. À première vue, je ne trouve pas d'autre exemple avant lui que celui de Montaigne et celui de Saint-Simon. Et ni les essais ni les mémoires ne sont des œuvres romanesques. Et Proust lui-même citait comme ses maîtres dans l'art du roman des auteurs dont la technique et la destinée avaient été toutes différentes, comme Balzac ou Dostoïevski ou Flaubert, Dickens. La conséquence de ce phénomène sur le plan de ce que vous appelez l'acte d'écrire, c'est la suivante. Pendant l'essentiel de ce qui constitue sa carrière, son existence littéraire, Proust a vécu avec son œuvre dans l'ouverture et dans la continuité. Jamais Proust n'a connu l'achèvement de son œuvre, jamais non plus il n'a connu son inachèvement d'ailleurs, puisqu'il en tenait la conclusion, pour ainsi dire, dès l'origine de son entreprise. Jamais il n'a connu cette rupture, ce désœuvrement qui constitue pour un romancier ordinaire le moment difficile de l'entre-deux œuvres, ce moment où un livre est achevé et où le suivant n'est pas encore commencé. Jamais donc il n'a connu le problème de la fidélité à son œuvre, ni celui du renouvellement, ni surtout celui de la fidélité dans le renouvellement ou du renouvellement dans la fidélité. Il n'a pour ainsi dire jamais eu à commencer ni à cesser d'écrire. Il a vécu en écrivant, sans avoir presque à entrer dans son œuvre ni à en sortir. Son œuvre lui a été sans cesse ouverte et il a pu maintenir sans discontinuité l'osmose entre sa vie et son œuvre. Osmose dans les 2 sens, puisque son expérience de la vie n'a cessé de nourrir son œuvre et que son œuvre n'a cessé d'être pour lui un moyen, un instrument d'expérience spirituelle. Dans ces conditions, l'acte d'écrire cesse d'être, je crois, cette entreprise absurde qui consiste à sortir de soi tous les jours à heure fixe pour entrer dans le monde artificiel de l'écriture. La difficulté d'écrire qu'avait si bien connue et décrite un Flaubert, par exemple, et qui tient sans doute au passage de l'écriture transitive, qui est l'écriture naturelle, à l'écriture intransitive, qui est l'écriture littéraire, cette difficulté disparaît. L'acte d'écrire, d'écrire tout court, au lieu d'écrire quelque chose, une lettre ou un article, l'acte d'écrire devient ainsi aussi naturel qu'une correspondance ou un journal de bord. Proust réussit à édifier son œuvre, une œuvre romanesque, comme on tient son journal. Il a résorbé l'entreprise littéraire dans la continuité de l'expérience quotidienne. C'est ce que personne n'avait fait depuis Montaigne, qui, encore une fois, n'était pas romancier. En face de la difficulté d'écrire, qui est, je crois, la condition de toute littérature digne de ce nom depuis un siècle, l'expérience de Proust constitue donc une sorte de réponse. S'agit-il seulement d'une réponse pour nous, Ou s'agit-il également d'une réponse pour lui, c'est-à-dire d'une réponse à une question qu'il s'était posée à lui-même? Il est assez difficile de le dire. On connaît bien les démêlés de Flaubert, ou ceux de Mallarmé, ou ceux de Kafka avec leur œuvre. On connaît beaucoup plus mal ceux de Proust, du moins dans l'état actuel de ce que nous savons de lui. Et, en fait, son existence littéraire nous est restée très obscure. Son œuvre, son travail dans son œuvre et pour son œuvre était une part secrète de son existence, une part dont il ne parlait pour ainsi dire à personne et sur laquelle il nous a laissé très peu de confidences. On peut simplement remarquer ce moment dont j'ai parlé tout à l'heure, le moment où il a dû renoncer à la rédaction de Jean Santeuil. Pourquoi cet arrêt, cet abandon? Quel sens a-t-il donné à cet échec momentané? Comment a-t-il pu le reprendre après quelques années sous une autre forme? Autant de secrets dans sa vie. Mais il reste que, pour nous qui vivons pleinement et consciemment dans le temps de la difficulté d'écrire, l'expérience de Proust est une réponse. Il y avait eu, si vous voulez, une première réponse à peu près inverse qui avait été celle de Flaubert. L'entreprise de Flaubert avait consisté à rompre tout lien entre la littérature et l'existence, à forcer l'artifice littéraire jusqu'à sa limite extrême et à fermer hermétiquement son œuvre sur elle-même. L'entreprise de Proust consiste au contraire à résorber cet artifice en ouvrant l'œuvre sur la vie et en la laissant ouverte jusqu'à la mort. Il n'y a rien de plus troublant à cet égard que ces dernières années de sa vie, ces années où il ne vivait plus que pour son œuvre, que pour écrire, et où dans le combat qu'il livrait contre la mort, ou plutôt dans la course de vitesse qu'il courait contre la mort, il avait fini par confondre absolument les minutes de sa vie et les minutes de son œuvre. Son œuvre lui était devenue absolument vitale, consubstantielle à la réalité la plus matérielle de sa vie, de son souffle vital. Dans ces moments-là, je crois, la littérature devient absolument justifiée, absolument nécessaire, et donc absolument possible. Car bien entendu, ce qui fait la difficulté d'écrire, ce n'est pas que l'écriture soit techniquement difficile, c'est qu'elle est factice et contre nature. Encore une fois, je ne sais pas si cette justification vitale était ressentie comme nécessaire par Proust lui-même, mais ce qui est certain, c'est qu'elle nous apparaît comme telle aujourd'hui à nous, et c'est cela qui nous importe. Il y a quand même un passage de la Recherche du temps perdu où apparaît un tel renversement dans l'appréciation portée sur la valeur de l'œuvre d'art. C'est à propos de la peinture, au moment de la mort de Bergotte, qui est écrivain, bien sûr. Et il est évident qu'en parlant de peinture, comme d'ailleurs en parlant de musique, Proust pense à la littérature. Bergotte visite pour la dernière fois une exposition et, avant d'arriver devant le fameux tableau de Vermeer, Proust écrit, il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. C'est toujours l'idée de l'inutilité et de la facticité de l'art ou de la littérature qui accablait Proust dans ses moments de découragement. Et puis, brusquement, Bergotte se trouve devant le tableau de Vermeer, et il éprouve alors le sentiment d'évidence d'un art justifié. Il pense à son œuvre, et il se dit « voilà ce que j'aurais dû faire ». Mais c'est trop tard, et il meurt. Le moment de la justification de l'art, c'est aussi le moment où l'œuvre entre en agonie, c'est-à-dire le moment où elle mérite un combat contre la mort parce que sa valeur se confond avec celle de la vie. C'est, je crois, ce que Proust appelle les courants d'air et de soleil au bord de la mer.
L'impression fut si forte que le moment que je vivais me sembla être le moment actuel, plus hébété que le jour où je me demandais si j'allais vraiment être accueilli par la princesse de Guermantes ou si tout n'allait pas s'effondrer. Je croyais que le domestique venait d'ouvrir la fenêtre sur la plage et que tout m'invitait à descendre me promener le long de la digue à marée haute. La serviette que j'avais prise pour m'essuyer la bouche avait précisément le genre de raideur et d'empesée de celle avec laquelle j'avais eu tant de peine à me sécher devant la fenêtre le premier jour de mon arrivée à Balbec. Et maintenant, devant cette bibliothèque de l'hôtel de Guermantes, elle déployait, répartie dans ses plis et dans ses cassures, le plumage d'un océan vert et bleu comme la queue d'un paon. Et je ne jouissais pas que de ces couleurs, mais de tout un instant de ma vie qui les soulevait, qui avait été sans doute aspiration vers elles, dont quelques sentiments de fatigue ou de tristesse m'avaient peut-être empêché de jouir à Balbec, et qui, maintenant, débarrassé de ce qu'il y a d'imparfait dans la perception extérieure, pure et désincarnée, me gonflait d'allégresse.
Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Swann. La RTF vous a présenté Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier.
Cinquième émission, La leçon de Proust, selon Gérard Genette. Les textes de Marcel Proust étaient lus par Pascal Mazzotti.
Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Swann. La RTF présente Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier, avec la participation de Roland Barthes, Michel Butor, Louis-René Desforêts, Marguerite Duras, Gérard Genette, Francis Ponge, Nathalie Sarraute, Philippe Solers.
Sixième émission. La leçon de Proust selon Francis Ponge.
Le lecteur de Proust a le sentiment d'entrer de plein pied dans le royaume de l'esprit. Dès les premières pages du Temps perdu, une sorte d'extase, une angoisse extasiée, lui est à la fois donnée et promise. Et c'est avec confiance qu'on se laisse conduire à cette longue recherche dans laquelle se déploie continuellement l'ample douceur de la patience et de l'attention. L'œuvre de Proust, l'accomplissement de son acte d'écrivain, en fait un acte peut-être parfait. Pour son acte même, pour son besoin d'agir à sa propre manière, quelle leçon l'écrivain y trouve-t-il ? Pour l'écrivain, en somme, quelle est la leçon de Proust ? Francis Ponge.
J'ai abordé Proust de façon très lente et à plusieurs reprises. Au début, ça n'a pas été facile. J'ai d'abord trouvé Proust dans la bibliothèque de mon père. J'étais dans des études de première supérieure. J'avais beaucoup à faire à Louis Grand, je ne sais pas. Enfin, ça n'a pas marché. Ensuite, eh bien, il y a eu la guerre, enfin pour moi, c'est-à-dire que j'ai été mobilisé en 18, et je n'ai, je crois, recommencé à lire, alors des fragments de Proust publiés dans la Nouvelle Revue Française vers 1920-21. Et cela m'a alors, peut-être parce que c'était des fragments, probablement très bien choisi par Rivière-Paulin. C'était moins long. Les fragments choisis étaient peut-être ceux qui pouvaient atteindre immédiatement, enfin, un lecteur. Cela m'a touché. Il faut dire que je commençais à ce moment-là à écrire. Enfin, j'avais commencé plus tôt, mais je commençais vraiment à savoir ce que c'était que ce que je voulais faire. Et je tendais vers une littérature extrêmement serrée, dense, de petits textes à la fois très courts, exactement le contraire de ce que Proust montre, c'est-à-dire un langage synthétique, alors que Proust est évidemment le plus analyste, enfin le plus partisan de l'analyse. Toujours est-il que, malgré la grande différence entre ce que je voulais faire, c'est-à-dire rapprocher, si vous voulez, la langue française de la langue latine, en étant aussi peu analyste que possible, en supprimant les petits mots, et en tout condensant, mon professeur déjà de Cannes me disait que mes mots se massaient les uns les autres, en fait que c'était un peu comme du chewing-gum. Évidemment, Proust, c'est tout à fait le contraire. Malgré cela, j'ai été séduit par Proust. Dans le premier numéro de la Nouvelle Revue Française, qui comportait des textes de moi, en 1923, j'avais alors 24 ans, il y avait un fragment de Proust qui précédait immédiatement mon texte. C'était le Septuor de Vinteuil. Il faut dire aussi, voyez donc, qu'il s'agissait là d'un fragment concernant la musique. Or, il se trouvait que j'étais musicien depuis très longtemps, puisque même quand j'étais enfant, on pensait que je serais plutôt un musicien qu'un écrivain. On me donnait du talent en musique. Je crois que j'étais sensible à la musique, très sensible, même à l'époque en question, c'est-à-dire vers 1920, 22, 23, j'allais beaucoup aux concerts. Ce qui m'a tellement ému, ce que j'ai tellement aimé dans ce fragment, et bien sûr, en général, de ce que Proust dit de la musique et aussi de la peinture, c'est qu'il parle de la façon la plus simple, de plein pied, qu'il entre, n'est-ce pas, et qu'il parle de la, par exemple, du Septuor de Vinteuil, non pas ex-cathédra, mais qu'il se trouve dans un salon, il y a à la fois la peinture du salon, des réactions des gens qui sont dans ce salon, il se moque un peu d'eux, et quand le Septuor commence à être joué, eh bien, c'est au milieu de la vie. Enfin, ce n'est pas du tout une critique ou un morceau d'éloquence sur le Septuor de Vinteuil. Tout cela est à la fois très naturel. Il refait le chemin de son propre esprit sans aucune vergogne en disant tout et en ne laissant pas s'insérer la moindre idée critique qui ne soit pas née de sa sensibilité. Mais aussi, naturellement, le fait que, pour être honnête avec cette sensibilité, avec ses impressions les plus fines, il a été obligé d'inventer un style. C'est-à-dire, dans la Nouvelle Revue française, nous avions l'habitude de trouver des textes quasi classiques. Valéry, Gide. Je ne dis pas qu'il faisait des pastiches de la littérature classique. Mais enfin, c'était bien la seule revue où on était certain de ne pas trouver de faute de français, où tout était dans l'esprit de la littérature classique. Vous savez bien que la réaction, par exemple, de Gide contre le symbolisme, dans les prétextes, les nouveaux prétextes, c'était vers la litote, par exemple. C'était une expression condensée et qui dit finalement plus qu'elle ne dit, enfin, c'est-à-dire qui exprime plus que ce qui est dit. C'était une révolution de voir quelqu'un qui avait l'audace, à la fois en écrivant très bien, parce qu'il n'y a pas de faute de français dans Proust. Il y a seulement des choses qui étaient parfaitement interdites, par exemple par nos professeurs de français ou de philosophie, c'est-à-dire de faire des phrases qui durent une demi-page, ou une page et demie. Ça, c'était révolutionnaire. C'était une audace révolutionnaire. Il y avait cela, et cependant tout cela était parfaitement écrit. Bon, j'arrête là pour ce qui est de mes impressions premières. Parce qu'ensuite, beaucoup plus tard, quand on est entre 20 et 30 ans, 4 ou 5 ans, c'est énorme. Surtout quand on ne s'occupe que de son travail, c'est ce que je faisais. Je ne voyais personne, je n'étais pas bon dans le moins du monde, je n'allais même pas dans les cercles littéraires, j'étais enfermé. Dans ma chambre, et quand je sortais, j'étais pour aller à quelques promenoirs musicales, le soir, tard, ou à me promener la nuit. Donc je m'occupais absolument que de cela. Je méditais sur les règles de la littérature, la façon de faire, la façon d'écrire. Et je me suis mis alors à lire Proust d'un bout à l'autre complètement. Il faut dire que ma méditation était à base de refus de la société comme elle se trouvait. J'étais un révolté. Bien que je n'ai pas voulu les approcher alors, parce que je n'aimais pas les attitudes théâtrales et le scandale, et les manifestations sur les tréteaux, j'étais tout de même très proche des surréalistes. J'étais comme certains d'entre eux, comme la plupart d'entre eux, à l'intérieur de moi, très révolté, très brutal. Et mes expressions ne l'étaient pas, parce que je ne montrais quasi rien. Mais dans mon comportement, j'étais un être farouche et brutal. À partir du moment où j'ai eu lu Proust, alors dans son intégrité, c'est-à-dire probablement vers 1928, à ce moment-là, tout a changé. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'écrivain était le moins du monde changé par Proust. Il a été plutôt pour moi une espèce de confirmation qu'on pouvait dire ce qu'il y a de plus particulier dans votre sensibilité, à sa façon, c'est-à-dire en entrant dans la forêt et en suivant tous les sentiers, ou à la mienne, c'est-à-dire en essayant d'avoir des expressions très, comment dirais-je, très vives, mais à la fois très denses, très serrées, c'est-à-dire en serrant tout, mais qu'il s'agisse de couleurs, mettons fauves. Alors, c'est l'homme, chez moi, qui a été changé, c'est le caractère. À partir du moment et au fur et à mesure que je disais Proust, je me sentais changé, j'étais changé. J'étais un peu naïf par rapport à la société, je crois que Proust a fait que je l'ai été moins. Enfin, ce qui m'a alors bouleversé, bien sûr, c'est le temps retrouvé. Et ce sont les passages, les longs passages méthodologiques, enfin, concernant l'art d'écrire et la conception de la littérature comme façon de vivre chez Proust. Ces passages sont pour moi un sommet de, si vous voulez, de la littérature d'art poétique. Il a tout sacrifié, on le sait, n'est-ce pas, sa vie même, à cette passion et à ce désir de communiquer le plus profond, le plus fin de sa sensibilité. Finalement, il est évident que les plus grands génies du siècle, enfin ceux qui ont été, enfin je parle en littérature française, et dans la nouvelle revue française, puisqu'à l'époque c'était elle qui révélait cela, et qui polarisait les grands talents, il est évident que c'est non pas tellement ce qui a fait, comment dirais-je, la doctrine, la nouvelle revue française, c'est-à-dire, mettons J.D. Valéry, mais Proust et Claudel, c'est-à-dire les gens doués d'une telle ressource de sensibilité, d'un tel foisonnement de sensations, et aussi qui ont bouleversé le style, qui n'ont pas été le moins du monde des académiques ou des néo-classiques, mais qui ont inventé leur propre façon de parler. Enfin, il est évident qu'ils n'ont pas été si vite reconnus, ni l'un ni l'autre, même à l'intérieur de ces cercles. En somme, c'est l'audace à la fois et la douceur de Proust qui ont été pour moi bouleversants, enfin, qui m'ont changé entièrement. Et j'ai pour lui une reconnaissance infinie. Et je n'ai jamais parlé de Proust, et ni écrit de lui. Probablement parce que c'était trop difficile pour moi. Et c'est ici la première fois, et c'est bien faible. Il faut excuser tout cela, ce n'est rien, c'est un peu de choses.
À 50 ans, paraissait du côté de chez Swann. La RTF vous a présenté Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier.
Sixième émission. La leçon de Proust selon Francis Ponge.
Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Swann. La RTF présente Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier, avec la participation de Roland Barthes, Michel Butor, Louis-René Desforêts, Marguerite Duras, Gérard Genette, Francis Ponge, Nathalie Sarraute, Philippe Solers.
Septième émission, la leçon de Proust selon Nathalie Sarraute.
Le lecteur de Proust a le sentiment d'entrer de plein pied dans le royaume de l'esprit. Dès les premières pages du Temps perdu, une sorte d'extase, une angoisse extasiée lui est à la fois donnée et promise. Et c'est avec confiance qu'on se laisse conduire à cette longue recherche dans laquelle se déploie continuellement l'ample douceur de la patience et de l'attention. L'œuvre de Proust, l'accomplissement de son acte d'écrivain, en fait un acte peut-être parfait. Pour son acte même, pour son besoin d'agir à sa propre manière, quelle leçon l'écrivain y trouve-t-il? Pour l'écrivain, en somme, quelle est la leçon de Proust? Nathalie Sarraute.
Proust a naturellement pour moi, comme pour tout écrivain, une immense importance. J'ai lu pour la première fois À la recherche du temps perdu en 1924, quand j'étais encore très jeune, et ça a été pour moi un véritable bouleversement. Enfin, j'ai eu à ce moment-là déjà l'impression que toute la littérature courante était balayée et que quelque chose de tout à fait nouveau et de très important était arrivé, que la littérature était à un tournant. Depuis, cette impression n'a jamais changé, malgré toutes les attaques, les critiques dont Proust a pu être l'objet. Il me semble toujours qu'il a mis au point une vision du monde psychique, je dirais psychique, parce que quand on dit psychologique, immédiatement tout le monde pousse des cris. C'est un mot qu'on considère comme désuet, qui n'est pas à la mode et qui est très mal vu. C'est la vision d'un univers vu à travers un microscope, avec un foisonnement extraordinaire d'états encore jamais exprimés. C'est un bouleversement complet de ce que nous pensions sur les sentiments, les sensations éprouvées telles qu'elles étaient décrites dans les romans qui avaient précédé. C'est la mise au jour d'une substance psychique ou psychologique absolument neuve, et par le fait même de cette mise au jour de cette substance, tous les cadres du roman traditionnel ont craqué. Il y a dans Proust, évidemment, des personnages. Il y a même, si on veut, une histoire, une sorte d'intrigue, à peine visible, mais qu'on peut évidemment retrouver quand on lit à la suite toute la recherche du temps perdu. Mais la force, la richesse de cet univers psychologique qui est mis au jour, cette substance anonyme, propre à tous, qui existe dans chacun des personnages, si différenciés que soient ces personnages, car ils parlent tous un langage tout à fait différent, qui leur est propre, fait que les personnages eux-mêmes perdent de leur importance. Le lecteur est entièrement, me semble-t-il, en tout cas moi, est fixé sur l'importance de cette substance qui est mise au jour, disparaît complètement l'histoire, les événements eux-mêmes, et les caractères et les personnages, si typés qu'ils puissent être, les personnages n'étant que les supports de cette substance anonyme que Proust a mise au jour. Cette découverte a été d'une immense importance. Elle ouvrait la voie à des recherches tout à fait neuves. Elle était tout à fait dans le courant du développement de la littérature moderne, mais il me semble qu'elle a été stoppée, fortement stoppée même, notamment après la Libération, au moment où était à la mode le behaviorisme, au moment où a commencé à s'installer ici un courant qui était celui de la littérature engagée. À ce moment-là, Proust est tombé, complètement tombé. Mais Proust est tellement immense, sa place est si grande, il continue à être tellement présent et tellement là, malgré toutes les attaques, qu'il n'a pas été possible de passer outre. Il a fallu tout de même, d'une manière ou d'une autre, essayer de le récupérer. Et maintenant, enfin après justement ce mouvement de la littérature engagée qui a d'ailleurs échoué après le moment où le behaviorisme s'est démodé, on a essayé de le récupérer en disant que tout de même Proust était grand parce qu'on y découvrait une critique de la société, ce qui me paraît absurde parce que tout écrivain est toujours critique à l'égard de la société quelle qu'elle soit qu'il décrit, puisqu'il découvre toujours derrière les apparences, quelque chose de secret et de caché. Mais en tout cas, la critique de cette société du Faubourg Saint-Germain, qui à ce moment-là n'avait déjà plus qu'une existence tout à fait illusoire, ne présentait en elle-même aucun intérêt. Il enfonçait des portes ouvertes quand il décrivait le snobisme stupide du Faubourg Saint-Germain ou ses fausses puissances qui n'en étaient pas une, qui ne reposaient même pas sur une puissance véritable, qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'avait essayé d'écrire Saint-Simon. C'était simplement un prétexte pour découvrir justement une substance qui est propre à chacun, qui existe, j'en suis absolument convaincue, chez tout être humain et chez les hommes de toutes les classes. Et c'est par cette substance absolument neuve, cette matière psychologique nouvelle, qu'il reste grand et qu'il reste pour moi l'exemple parfait de ce fait que sans la découverte d'une parcelle ou d'une grande part, comme c'était son cas, de la vie psychologique, de la vie psychique, il n'y a pas de possibilité de créer une forme neuve, que le contenu et la forme ne sont qu'une seule et même chose. C'est en effet toute cette découverte, cette recherche d'une réalité nouvelle qui lui a fait balayer les apparences, qui a amené Proust d'une manière tout à fait spontanée à créer un style qui lui est propre, un style tout à fait nouveau, ces immenses phrases sinueuses qui cherchent à s'infiltrer dans tous ces méandres des états ténus qu'il veut décrire, a entièrement déterminé son style. Il n'y avait pas chez lui de recherche pure de forme qui soit basée uniquement sur la forme elle-même, de construction, comme ça, à partir de rien. C'était constamment la recherche de quelque chose de réel pour lui qu'il voyait derrière l'apparence, et cette recherche lui le forçait à créer un instrument de recherche qui était sa forme neuve et son style. Il avait dit lui-même que le style pour l'écrivain, comme la couleur pour le peintre, est une question non de technique, mais de vision. C'était cette vision qui déterminait son style. On a voulu après voir dans son œuvre uniquement une structure de langage, un monument de langage. Il est à la mode à l'heure actuelle de parler de recherche pure de langage, mais en réalité, il est absolument évident que ce monument de langage, comme dans toutes les œuvres littéraires, dans toutes les grandes œuvres littéraires, ce monument de langage, fait de mots, ramène à une pensée nouvelle. Il ne s'agit jamais, à aucun moment, de recherche pure de forme, et d'une construction gratuite de mots.
Ça, le langage est un outil, je pense.
Mais, totalement, il n'y a jamais de coquetterie d'auteur. Je pourrais dire que les passages, peut-être, à mon avis, chez lui, qui sont le plus désuets à l'heure actuelle, justement, quand je leur lisais il y a peu de temps, et qui sont encore dans le 19e siècle, qui ne sont pas tout à fait modernes, seraient peut-être certains passages extrêmement travaillés de description pure, et qui ont encore cette beauté formelle qui rappelle celle de Flaubert. Mais dès qu'il est dans sa substance à lui, uniquement en elle, dès qu'il ne s'agit plus du tout de belles descriptions formelles, à ce moment-là, il n'y a jamais de recherche gratuite de langage, jamais rien de creux ou de vide. Tout est nourri, extrêmement dense et riche d'une substance qui paraît faire presque craquer la forme. Chez Proust, il y a évidemment tout un côté qui est encore de l'analyse pure, de l'analyse intellectuelle, qui est un petit peu immobile, qui porte sur une substance qui est comme figée dans le souvenir. C'est une analyse qui rappelle par moments très fort l'analyse des grands classiques. Tandis que Joyce a mis en mouvement cet univers psychologique. C'est l'écoulement du flot de la conscience qui est visible chez Joyce. En ce sens, il me semble que Proust a découvert un immense continent psychologique et que Joyce a été un des premiers qui a essayé de mettre tout cela en mouvement. Ils ont écrit à peu près en même temps. Enfin, chez Joyce, c'est le mouvement qui fait de lui un grand précurseur du roman moderne. En effet, enfin, moi en tout cas en ce qui me concerne, ces états psychologiques ténus chez moi sont toujours dans un mouvement. Ça se passe toujours en train de se faire. Au présent, il n'y a pas d'analyse, si on veut, sur des points très restreints, naturellement, et très précis. L'état psychologique ténu est en train de se faire, et c'est pendant qu'il se fait, dans le rythme dans lequel il se fait, que j'essaie de le saisir. En tout cas, toutes les attaques dont Proust a été l'objet et toutes ces interprétations par lesquelles on a essayé de le niveler, on a essayé de montrer qu'il était justement intéressant par la critique sociale. Mais à ce point de vue-là, d'autres auteurs ont été bien plus intéressants que lui, qu'il a fait des personnages très vivants. c'est-à-dire d'essayer de le réduire à quelque chose de traditionnel, ou que sa construction était très belle et très harmonieuse, c'est toujours une façon d'essayer de le réduire à quelque chose de traditionnel et de se débarrasser de ce côté révolutionnaire, de cette percée vers une réalité inconnue, de cet avènement d'un monde nouveau, et surtout de se débarrasser de ce fait qu'il est nécessaire pour tout écrivain, suivant ses forces, plus ou moins, en tout cas de faire une recherche qui dévoile ou qui révèle une parcelle quelconque d'une réalité inconnue. Toutes ces attaques dont il a été constamment l'objet, ces résistances qu'il éveille encore, montrent à quel point il est toujours vivant et il est toujours gênant.
Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Swann. La RTF vous a présenté Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier.
Septième émission, la leçon de Proust selon Nathalie Sarraute.
À 50 ans, paraissait du côté de chez Swann. La RTF présente Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier, avec la participation de Roland Barthes, Michel Butor, Louis-René Desforêts, Marguerite Duras, Gérard Genette, Francis Ponge, Nathalie Sarraute, Philippe Solers.
Huitième émission, la leçon de Proust selon Philippe Solers.
Le lecteur de Proust a le sentiment d'entrer de plein pied dans le royaume de l'esprit. Dès les premières pages du Temps perdu, une sorte d'extase, une angoisse extasiée, lui est à la fois donnée et promise. Et c'est avec confiance qu'on se laisse conduire à cette longue recherche dans laquelle se déploie continuellement l'ample douceur de la patience et de l'attention. L'œuvre de Proust, l'accomplissement de son acte d'écrivain, en fait un acte peut-être parfait. Pour son acte même, pour son besoin d'agir à sa propre manière, quelle leçon l'écrivain y trouve-t-il ? Pour l'écrivain, en somme, quelle est la leçon de Proust ? Philippe Solers.
La leçon de Proust, ça évidemment, c'est un domaine extrêmement vaste et elle peut se comprendre à beaucoup de niveaux différents. Je crois donc qu'il faut forcément, étant donné qu'on est en présence d'une œuvre aussi grandiose, construite, variée, indéfinie, presque, il faut donc se limiter à deux ou trois chose précise, et personnellement, j'aimerais me limiter au point fort, si vous voulez, pour moi, de l'œuvre de Proust, c'est-à-dire à ce qui demeure pour moi le plus mystérieux ou le plus ouvert vers l'avenir, ou bien à ce qui n'est pas complètement explicable pour moi dans l'œuvre de Proust. Et je vois d'abord, dans La recherche du temps perdu, que j'ai lu, comme vous dites, avec cette espèce d'extase qui doit presque... C'est un euphorisant absolument extraordinaire, bien sûr. Et je crois être un de ces nombreux lecteurs qui avaient peur de terminer le livre parce qu'ils n'avaient pas envie, au fond, de lire autre chose. Eh bien, je crois que ce qui reste le plus inquiétant, le plus vivant pour moi dans l'œuvre de Proust, maintenant que je connais à peu près bien, c'est tout de même ce que Georges Bataille, dans un texte que je considère comme le texte le plus important qu'on ait écrit sur Proust, et qui s'appelle « Digression sur la poésie de Marcel Proust dans l'expérience intérieure », ce que Georges Bataille appelle justement l'expérience intérieure de Proust. C'est-à-dire que si vous voulez, pour dégager la leçon de Proust, j'aurais volontiers tendance à laisser de côté tout l'aspect romanesque, pourtant extrêmement important, de son œuvre. J'aurais tendance à m'en tenir à une sorte de trame beaucoup plus secrète, à une sorte de ligne qui se dégage en définitive le plus au fond de cette œuvre et qui consiste dans ce que Bataille appelle l'expérience intérieure et qui, je crois, est une excellente formule. Qu'est-ce que c'est que cette expérience intérieure de Proust? Eh bien, ce sont justement à intervalles réguliers, non pas les morceaux même très connus sur la résurrection du passé, et ce qui entraîne ces longues digressions sur la mémoire affective, enfin que tout le monde connaît très bien, mais c'est au contraire, comme dans le passage des trois arbres, n'est-ce pas, qui est bien connu, c'est au contraire une espèce de milieu atteint par Proust, qui est bien au-delà, si vous voulez, de ces questions extrêmement débattues de l'espace et du temps proustien. C'est un milieu où, au contraire, il semble que le temps et l'espace soient tout à fait résorbé ou dépassé, où on entre dans une dimension qui est pour moi celui de l'expérience intérieure, de l'intériorité elle-même. Et c'est par là, me semble-t-il, que l'œuvre de Proust regarde vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il me semble que par tout son côté romanesque, par tout son côté comédie spirituelle, si vous voulez, elle est évidemment extrêmement importante, mais à l'intérieur même de cette pulpe extrêmement savoureuse, épaisse, etc., il y a cette espèce d'amande qui me paraît être une ouverture sur tout un futur de la littérature. D'autre part, et justement peut-être parallèlement à ces moments forts, à ces temps forts de l'œuvre de Proust, c'est-à-dire ces temps forts où il se trouve absolument en présence d'un monde qui n'est pas celui de la mémoire, qui est celui d'une espèce d'angoisse extatique, si vous voulez, et aussi certains états qui sont des états d'insatisfaction, à vrai dire, et où il arrive à une sorte de mystère beaucoup plus, parfois beaucoup plus convaincant que les moments qui sont directement reliés à la résurrection du passé, par exemple. Je fais toujours allusion à cet épisode des trois arbres, qui est pour moi capital, qui est comme il était capital pour Bataille. Là, je m'appuie, si vous voulez, sur Bataille, parce qu'il me semble que c'est le point de vue peut-être le plus au fond lorsqu'il s'agit de Proust. Mais enfin, tout de même, par rapport à cette expérience intérieure, et sans négliger l'ampleur de l'œuvre de Proust qui se développe à beaucoup de niveaux différents, il me semble alors que là, il y a quelque chose de très important aujourd'hui, comme leçon à tirer de cet engagement littéraire de Proust, complet et absolu, comme vous savez, et qui même prend quelque chose d'héroïque lorsqu'on lit, avec l'émotion, évidemment, qu'on ne peut ne pas ressentir devant ce combat qui s'achève dans la mort. Bon, eh bien, il y a alors une théorie du livre, une espèce de posture par rapport au langage et au monde qui me semble alors absolument moderne et intéressante. Qu'est-ce que dit Proust? Proust dit, et c'est en particulier dans le temps retrouvé, où nous arrivons, si vous voulez, à cette espèce de renvoi à l'œuvre tout entière qui se produit à la fin, n'est-ce pas? C'est au moment donc où Proust commence à écrire qu'il a déjà fini d'écrire son livre. Donc ça produit une espèce de recommencement perpétuel de l'œuvre, c'est l'une de ses grandes fascinations. Et c'est le moment aussi où il dévoile, peut-être de manière plus synthétique, certaines de ses grandes idées sur l'art, sur la littérature, sur le langage, sur le monde, qui sont d'ailleurs éparses dans toute l'œuvre elle-même. Or, que dit-il? Eh bien, il dit que l'écrivain doit se placer dans un état de lecture par rapport au monde, qu'il est le seul à pouvoir faire, et que, la phrase très exacte est la suivante, le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. C'est-à-dire que non seulement la réalité est la réalité la plus profonde, qui est celle justement de cette expérience intérieure dont je parlais, puisqu'il revient à plusieurs reprises là-dessus, avec des termes comme ceux de « mon cerveau était un riche bassin minier, que j'étais le seul à pouvoir exploiter », ou bien encore il parle des paysages de l'esprit, l'esprit a ses paysages, etc. Bien. C'est donc à l'intérieur de cette expérience où le monde se trouve dans sa véritable réalité, donc dans l'intériorité, c'est donc une position, donc écrivain, une position de lecture. Ce sont des signes qu'il s'agit de lire. C'est une attitude de déchiffrement, de décryptement. En cela, il est peut-être un des premiers écrivains moderne en tout cas, à dire cela, et à le dire aussi fortement. Il dit donc que l'écrivain doit être non seulement un lecteur, et peut-être le seul lecteur véritable qui existe, n'est-ce pas ? Et que par conséquent, lisant le monde, il le traduit. Il s'agit donc d'une traduction. Écrire la recherche du temps perdu, c'est traduire un livre, n'est-ce pas, qui est le vrai livre, enfin, qui est le vrai livre, de même comme la vie de l'écrivain est la vraie vie, la seule vie réellement vécue.
Mais partir à la recherche du temps perdu, est-ce qu'il ne vous semble pas que ce soit aussi partir à la recherche de l'esprit lui-même ?
Bien entendu, la recherche de l'esprit lui-même se dévoile constamment dans l'œuvre de Proust, mais je dirais que même la leçon alors pour nous, enfin pour des écrivains modernes, c'est que justement on ne peut pas faire comme si le temps n'était pas retrouvé, et retrouvé par exemple par Proust. Ça introduira, si vous voulez, une leçon presque grammaticale, mais pour en finir avec cette question de lecture et de traduction, il y a encore un postulat, le troisième terme du syllogisme, si vous voulez. D'abord, le livre de la réalité est à lire, l'écrivain est le seul à pouvoir le faire. Secondement, il écrit donc, il traduit. Eh bien, le troisième terme est aussi intéressant parce qu'il dit le lecteur de mon livre, le lecteur de ma traduction, donc, sera un lecteur de soi-même, n'est-ce pas ? Or là, je crois qu'il y a, dans cette grande mythologie de la littérature moderne, qui est celle justement de la création d'un livre qui passe par Mallarmé, par exemple, n'est-ce pas, il y a une formulation extrêmement passionnante et ouverte justement sur cette espèce de posture de l'écrivain par rapport au langage et au monde, et au lecteur, sans oublier le lecteur, bien sûr. Or, à propos justement de cette recherche de l'esprit dont vous parlez par rapport au temps, je suis toujours passionné par les livres qui paraissent sur Proust, sur le temps proustien, sur l'espace proustien, etc. Mais, en effet, vous avez raison de le dire, il s'agit d'une comédie spirituelle, d'une recherche de l'esprit. Or, ce qui me frappe également, c'est que, pour un écrivain moderne, enfin je crois, pour un écrivain contemporain qui a lu Proust, qui a lu aussi d'autres auteurs, et parfois peut-être plus essentiels à sa vie mentale ou intellectuelle, eh bien, on ne peut pas faire justement comme si le temps n'était pas retrouvé. C'est-à-dire que le livre de Proust donc commence au moment où il finit, c'est le paradoxe bien connu de son œuvre, mais il renvoie fatalement de toute façon à un passé, et toute l'œuvre, n'est-ce pas, se déroule sur cette espèce d'imparfait continu et admirable qui couvre la totalité du temps, n'est-ce pas, qui fait du temps cet imparfait indéfini. Eh bien, je crois qu'une des explications pour laquelle, par exemple, certains romans, beaucoup en tout cas de romans contemporains, sont écrits au présent, c'est peut-être parce qu'on tire cette leçon de Proust. Et en tout cas, en ce qui me concerne, admettant, si vous voulez, le syllogisme proustien de la lecture, de la traduction et du lecteur se lisant soi-même, à la recherche de ce temps perdu qui est en réalité une recherche de l'esprit, eh bien, je placerai délibérément cette tentative au présent dans un temps qui serait justement le temps retrouvé.
Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Swann. La RTF vous a présenté Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier.
Huitième émission, la leçon de Proust, selon Philippe Solers.
C'était l'anniversaire, Marcel Proust, par Robert Valette. Première diffusion, du 12 décembre au 19 décembre 1963.